J'ai débarqué sur cette terre le 2 décembre 1868 à 4 heures du matin. Nul homme abordant sur un nouveau Latium n'avait traversé un tel océan. Ni aîné dont Virgile décrit les péripéties, ni gamma dont l'audace, s'il faut l'en croire, faisait trembler la plaine sous-marine. Ni colon, dont les matelots craignaient que le désert liquide ne fût à la fin une cataracte sombrant dans l'infini. Pourquoi nous extasier sur un voyage polaire ou tropical, accompli par des explorateurs qui ont traversé quelques degrés? Et qu'est-ce de boucler l'Alaska ou même les Indes occidentales à l'aide de kayaks ou de caravelles lorsque, sur un berceau, nous franchissons le néant? Je suis née à Tournai. Sur le flanc de cette falaise que battent incessamment les ondes aériennes et qui est la chaîne des Hautes-Pyrénées. Mon asile, à l'arrivée, ne fut point quelque grotte, mais une vieille demeure dont le propriétaire s'appelait Monsieur Casaba. Le premier vestige de beauté qui devait m'amener peu à peu à la notion d'une beauté plus haute, d'une création infiniment plus parfaite, fut à mes yeux, jusqu'à ma 5e année, un havre d'air limpide qui baignait un coteau dominé par de fières montagnes. Mon père était aussi bon que beau, de visage et d'allure. Mais je le craignais un peu. Je n'ai rencontré autant de majesté que chez un chef arabe que je vis entre Kefeldor et Tougourt, chaussé de bottes mordorées et maîtrisant un cheval rose léger comme le vent. Il était né aux Petites Antilles, le 18 août 1831, de Jean-Baptiste Jammes, docteur médecin, chevalier de la Légion d'honneur, dont les missives jaunies m'ont appris la nature passionnée, courageuse, entreprenante, entière, mélancolique, et d'une mère tendre, luxueuse et charmante. Tous deux français d'origine. On affirme que nous descendons de ce Jammes que mentionne Sully dans ses mémoires et qui fut l'un des meilleurs compagnons d'Henri IV. Quand on dînait, la face de mon père se dessinait en courbe de lumière, brillante et fine, comme un fil de rosée dans l'ombre de sa barbe de grand chef. Il était ironique avec fierté, rêveur, nerveux, beau, susceptible et bref. Dedans son cœur, peut-être, écoutait-il, comme on écoute au creux d'une coquille, les mornes voix des soleils des Antilles. Et sur mon âme, voyait-il des lueurs de colibris sur des jardins tranquilles, passer comme des éclairs de chaleur? Qui avait jeté le jardin devant moi. Qui faisait-on? Je ne comprenais pas. Et indécis, j'allais sous la tonnelle, pleine de nuit, de façon si légère que pour le dire, il me faudrait des ailes. On y riait, on me tendait un verre. Mais déjà, moi, j'étais comme une rose. Je me froissais, épineux et morose. Et je pleurais dans tout cet infini. Et c'est alors qu'entre toutes bénies, sur son grand cœur solide comme un buis, me consolait la mère de ma vie. Je me souviens de quand on allait voir à Orthez les grand-tantes vêtues de noir, qui avaient nom Clémence et Sélanire. Elles étaient huguenotes. Clémence, je la revois sur les parquets qui luisent, haute, maigre, silencieuse et glissante. Je demandais « Dis-moi, tante Clémence, si telle chose est vraie ou si l'on ment ?» Elle disait « Oui ou non, mon enfant ?» Il y avait autour d'elle de l'ombre. L'ombre, je crois, de l'Ancien Testament. L'ombre de la création du monde. Nous nous souvenons du jour où l'oncle revint d'un voyage aux Indes. Il arriva à cheval, par le fond du village, avec un grand manteau et des armes. C'était un soir d'été. Des jeunes filles couraient au parc où étaient de grands arbres, des noyers noirs avec des roses blanches, et des rires sous les noires charmilles. Et les enfants couraient, criant « C'est l'oncle !» Lui descendait avec son grand chapeau, du grand cheval avec son grand manteau. Sa mère pleurait. « Oh mon fils, Dieu est bon !» Lui répondait « Nous avons eu tempête, l'eau douce a bien failli manquer à bord. » Et la vieille mère le baisait sur la tête en lui disant « Mon fils, tu n'es pas mort. » Mais à présent, où est cette famille? A-t-elle existé? A-t-elle existé? Il n'y a plus que des feuilles qui luisent aux arbres drôles comme empoisonnés. Et tout s'endort dans la grande chaleur, des noyers noirs pleins de grande froideur. Personne là n'habite plus, les ébéniers luisent au soleil cru. Vieille marine. Enseigne noire galonnée d'or. Qu'allais observer le passage de Vénus et qui mettait la fille du planteur nu dans l'habitation basse par des nuits chaudes. C'était d'une langueur, c'était d'une tiédeur de fleurs blanches qui près de vasières meurt. La bien-aimée était apathique et songeuse avec un collier noir à son cou de tubéreuse. Elle se donnait ardemment et vos rendez-vous avaient lieu dans la petite chambre basse où étaient tes cartes et tes compas et le daguerréotype de tes petites sœurs. Tes livres étaient le manuel d'astronomie, le guide du marin et l'atlas des végétaux achetés à la capitale. dans une librairie dont le timbre était un chapeau de matelot. Vos baisers se mêlaient aux cris du large fleuve où traînent les racines des salses pareilles, qui rendent l'eau salutaire à tous ceux qu'atteint la syphilis dans ces contrées du soleil. Vous cherchez dans l'obscurité des étoiles le frisson langoureux d'une mer pacifique. Et tu ne cherchais plus dans le ciel magnifique l'éclipse mystérieuse et noire. Un souci cependant à ton œil lointain, ô jeune enseigne, errait comme un insecte en l'air. Ce n'était point la crainte des dangers marins ou le souvenir des dents serrées des matelots au fer. Que non. Quelques duels de ces vieilles marines avaient à tout jamais empoisonné ton cœur. Tu avais tué l'ami le plus cher à ton cœur. Tu gardais son mouchoir en sang dans ta poitrine. Et dans cette nuit chaude, ta douleur ne pouvait s'apaiser, bien que douce et lascive. La fille du colon évanouie de langueur noua au tien son corps, battu d'amour et ivre. Amsterdam. Les maisons pointues ont l'air de pencher. On dirait qu'elles tombent. Les mâts des vaisseaux qui s'embrouillent dans le ciel sont penchés comme des branches sèches au milieu de verdure, de rouge, de rouille, de harengs sort, de peaux de mouton et de houille. Robinson Crusoe passa par Amsterdam. Je crois du moins qu'il y passa, en revenant de l'île ombreuse et verte aux noix de coco fraîches. Quelle émotion il eut à voir quand il vit luire les portes énormes aux lourds marteaux de cette ville. Regardait-il curieusement les entresols où les commis écrivent des livres de contes? Eut-il envie de pleurer en ressongeant à son cher perroquet, à son lourd parasol qu'il abritait dans l'île attristée et clémente? Ô Éternel, soyez béni, s'écriait-il, devant les coffres peinturlurés de tulipes. Et son cœur attristé par la joie du retour, regrettait son chevreau qui, aux vignes de l'île, était resté tout seul et peut-être était mort. Et j'ai pensé à ça devant les gros commerces, où l'on songe à des juifs qui touchent des balances avec des doigts osseux noués de bagues vertes. Vois, Amsterdam s'endort sous les cils de la neige, dans un parfum de brume et de charbon amer. Guadalupe de Alcaraz, à des mitaines d'or. Des fleurs de grenadier suspendues aux oreilles, et deux accroche-cœurs pareils à deux énormes cédilles plaquées sur son front lisse de vierge. Ses yeux sont dilatés comme par quelque drogue. On dit qu'on employait jadis la belladone. Ils sont passionnés, étonnés et curieux, et leurs prunelles noires roulent dans du blanc bleu. Le nez est courbe et court comme le bec d'écaille. Elle est dure, dorée, ronde comme une grenade. Elle s'appelle aussi Rosita Maria. Mais elle appelle sa duègne Carogna. Toute la journée, elle mange du chocolat. Ou bien elle se dispute avec sa perruche dans un jardin de la vallée d'Almeria, plein de ciboules bleues, de poivriers et de ruches. Lorsque Guadalupe, qui a 17 ans, en aura 80, elle s'en ira souvent dans le jardin aux forts parfums, aux fleurs gluantes, jouer de la guitare avec de petits gants. Elle aura le nez crochu et le menton croche, les yeux troubles des vieux enfants, la maigreur courbe, et une chaîne d'or à longues émeraudes qui, roide, tombera de son col de vautour. D'un martinet géant et qui sera sa canne, elle battra les chats, les enfants et les mouches. Pour ne pas répondre, elle serrera la bouche. Elle aura sur la lèvre une moustache rase.